Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de Suède, de Belgique et d'Allemagne.
Comment lutter contre les inondations? C'est le premier sujet du jour. Vous savez, des graves inondations sont souvent signalées à travers le pays après la pluie et à la base. Le manque des caniveaux, parfois les caniveaux sont bouchés et le curage des rivières qui traversent certains quartiers. En d'autres coins, il s'agit plutôt des caniveaux, tels que je l'ai dit, qui sont bouchés. Alors comment s'y prendre pour lutter contre les inondations dans votre quartier? Et certains parlent même des constructions anarchiques qui empêchent aux eaux d'écouler normalement. Bon, pour en savoir plus, nous avons en ligne professeur Emmanuel Biéhi. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, comment est-ce qu'on peut lutter contre les inondations, professeur?
Ben, merci. Je crois que avant de dire comment on peut lutter contre les inondations, il faudrait que nous ayons d'abord à savoir c'est quoi une inondation.
Oui.
Et par définition, en fait, l'inondation, c'est une accumulation de la quantité d'eau anormale dans un milieu suite aux averses, aux pluies, ou alors à l'augmentation du niveau d'eau quand il y a une rivière ou un fleuve en aval. Et tout le monde sait que le sens de l'écoulement de l'eau, c'est toujours du niveau le plus haut vers le niveau le plus bas. Et alors, comment alors prévenir cette accumulation incontrôlée de l'eau? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en faisant des aménagements. Et au niveau des villes, les aménagements consistent soit à préserver tous les ouvrages de conduite d'eau, notamment les rivières, les collecteurs, les caniveaux. Et donc, il faut faire un aménagement de ces ouvrages pour pouvoir lutter contre les érosions, contre les inondations, je m'excuse.
Oui. Et dans certains quartiers, par exemple à Kinshasa, il y a des avenues où il n'y a pas, des canaux pour permettre l'écoulement des eaux. Alors, on assiste souvent quand il pleut à un ruissellement sauvage des eaux des pluies.
Au fait, le cas de Kinshasa, c'est un cas qu'il faut évoquer. Kinshasa, au départ, c'est une ville qui a été construite sur une plaine. Et vous savez que cette plaine a été longtemps occupée par le fleuve. C'est comme ça que le fleuve s'est rabattu vers le niveau où il est actuellement, qui a laissé une plaine et occupée par la ville. Lorsque le colonisateur a construit la ville de Kinshasa, il avait prévu toutes les mesures pour pouvoir protéger la ville contre les inondations, notamment la construction de certains collecteurs. Je crois que tout le monde connaît le collecteur Bichakuchaku, du côté de Ngaliema également, il y a pas mal de collecteurs, la tranchée Kabu, on connaît. Mais à l'époque, tous ces ouvrages étaient maintenus et c'était curé constamment.
Oui.
Mais la démographie, la croissance démographique a fait que il y a eu une occupation incontrôlée des terres au niveau de Kinshasa, ce qui fait que beaucoup de quartiers, bien sûr, n'ont pas connu une urbanisation. Et donc, il n'y a pas eu construction d'ouvrages de drainage, pas de collecteurs. Ce qui fait que aujourd'hui nous connaissons des problèmes d'inondation dans pas mal de quartiers.
Alors, les habitants eux-mêmes, comment peuvent-ils s'organiser pour faire face à ce problème?
Ben, pour faire face à ce problème, je crois qu'il y a d'abord un problème de conscientisation. Là où il y a des caniveaux qui existent, c'est simple. Il faut que ces caniveaux soient constamment curés. Et la responsabilité revient de primeur justement aux occupants parce que c'est eux qui voient, c'est eux qui vivent cette situation-là. Donc il y a moyen de maintenir propre le caniveau devant chez soi. Et c'est d'ailleurs une loi, elle est imposée. Chacun est responsable de la situation chez lui et devant chez lui. Donc s'il y a un caniveau qui passe devant chez soi, il faut le maintenir propre. Donc, au niveau des quartiers, les jeunes doivent s'organiser pour pouvoir faire des opérations de curage.
Et professeur Emmanuel, il y a certains quartiers qui ne sont pas urbanisés. Et alors, dans ces genres d'environnement, qu'est-ce qu'il faut faire pour drainer, si vous voulez bien, les eaux des pluies?
Oui, c'est vrai. Dans les quartiers comme Massina, je crois, ce sont de nouveaux quartiers où il n'y a pas eu du tout aménagement, oui. Dans ce sens qu'il n'y a pas construction de collecteurs. Mais les quartiers peuvent faire des projets pour la construction des collecteurs. Bien sûr, ils doivent se faire assister par l'OVD, parce que en définitive, tout le réseau de drainage, c'est l'OVD qui en est responsable. Donc, s'il y a des projets qui peuvent être conçus au niveau des quartiers, ces projets doivent être soumis à l'OVD.
Voilà, donc vous avez des questions, des réactions, composez le 081-800-93-94. Mais vous avez dit qu'il faut faire un projet, travailler en collaboration avec l'OVD, mais la population elle-même, par exemple, avant que ce projet ne soit activé elle-même, quelles sont les précautions, les dispositions à prendre chacun chez soi pour canaliser les eaux des pluies afin d'éviter
les dispositions, bien sûr, c'est assez clair. Il faut éviter tout ce qui peut faire l'accumulation de l'eau devant la maison. Et généralement, on constate que c'est là où il y a rejet d'immondices, là où il y a accumulation de terre, que se fait l'inondation. Donc, il faut qu'au niveau du quartier, qu'on évite des situations qui essaient de provoquer la stagnation, le blocage de la circulation de l'eau.
Voilà, nous avons en ligne dans cette émission, les auditeurs appellent, ils ont des questions. Gaston nous appelle depuis Lubumbashi. Gaston Moutouloua, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Maintenant, je voulais poser la question à votre invité.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord si on veut construire un quartier? Parce que si le quartier est déjà construit, il n'y a pas moyen de lutter contre l'inondation. Maintenant, pour lutter contre l'inondation, avant de construire un quartier ou bien une ville, qu'est-ce qu'il faut faire?
Voilà, merci pour la question, professeur Emmanuel.
Oui, merci. Je crois que c'est assez clair. La construction d'un quartier relève du plan d'aménagement d'une ville. Et lorsqu'il y a un plan d'aménagement, en principe, on ne peut pas commencer par ériger des quartiers ou des maisons sans pouvoir commencer par le réseau de drainage. C'est par là qu'on commence et les maisons suivent après. Donc, le conseil que je donne, c'est que tous les services de planification, les services d'urbanisation, les services d'environnement doivent travailler de concert lorsque une superficie est destinée à un lotissement pour la construction des quartiers et des maisons. On doit commencer par le réseau de drainage avant la construction des maisons.
Voilà, et dans certains quartiers, on le voit, pour éviter les érosions, les gens eux-mêmes creusent des trous qui sont en quelque sorte des bassins, des rétentions, des eaux de pluie pour éviter les érosions, professeur.
Vous avez déjà remarqué? Oui, c'est vrai. Le système de bassin de rétention, c'est un système qui est assez efficace parce que, au fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que les eaux de pluie, quand ça coule, il y a une certaine force, il y a un débit qui est souvent élevé. Et donc, c'est ce débit-là, c'est cette force de l'eau qui fait que ça provoque des érosions, ça provoque un départ de terre. Mmh. Et pour éviter cela, il faut freiner donc la vitesse de l'eau en créant des bassins de rétention, de sorte que ce bassin reprend toutes les eaux qui arrivent et qui sont alors déversées lentement au fur et à mesure. C'est là l'objectif, au fait, le but du bassin de rétention. C'est un système assez efficace.
Oui. Et certains utilisent, par exemple, des sacs de sable pour réduire également, ou des bambous pour réduire la vitesse des eaux de pluie.
Oui, c'est vrai. Vous savez que la végétation en soi, quand le sol est couvert, tout le monde sera d'accord avec moi qu'il est assez difficile de voir une érosion à ce niveau-là. Oui. Parce que la couverture végétale assure l'infiltration de l'eau. Et donc, nous avons intérêt à couvrir le sol complètement pour éviter d'abord ces érosions, parce que nous passons des inondations aux érosions, pour éviter ces érosions et une certaine façon de contrôler l'eau.
Voilà, c'est une façon de contrôler l'eau. Nous avons en ligne Rachidi Mouyumba de Kalemi et Ignace Ndala de Kolozi. Avant de leur accorder la parole, juste...
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Rachidi, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Kachama. Bonjour à notre invité.
Votre question ?
Oui, on constate souvent que l'État intervient lorsqu'il y a des arts, c'est une parenthèse seulement. Ma question réside, lorsque vous avez construit, donc le caniveau est bien construit, bon, avec cette force hydrique, vous pensez que le caniveau est emporté par l'eau. On a toujours tendance de mettre des bottes de paille, les troncs d'arbres, les métaux, le petit sac rempli de sable, comme vous venez à peine de le dire. Est-ce que peut-être réellement un moyen efficace pour lutter contre les inondations? C'est ça ma contribution.
Professeur Emmanuel Bien.
Bon, je crois que la meilleure façon de lutter contre les érosions, c'est de pouvoir construire le système de drainage. Lorsque nous apportons de la ferraille, de mitraille pour lutter contre l'érosion, je crois que ce n'est pas une solution parce qu'en définitive, c'est nous-mêmes qui en pâtissons. Puisque ces ferrailles, ces métaux sont à la base de la pollution du sol et du sous-sol. Et on déconseille toujours d'utiliser ou de procéder de cette façon-là. Je sais que ce sont des mesures parfois urgentes que la population prend parce qu'on est en détresse. Mais je crois qu'en définitive, la solution, c'est l'État pour la construction des ouvrages de drainage. Et généralement, c'est justement, il y a une certaine anarchie qui se fait. Les ouvrages peuvent être bien construits,
oui.
Mais vous savez que en aval, parfois, on met des structures telles que l'eau qui arrive est temporisée. La vitesse de l'eau est freinée par la caillasse ou des bricaillons ou des pierres qu'on y place, et le gambio. Et ce qui arrive, c'est que la population intéressée à construire des maisons va encore retirer ces bricaillons ou les pierres qu'on y place là-bas, et ce qui fait que le sol devient dénudé, et voilà, c'est ça qui cause la destruction de l'ouvrage de drainage et donc des érosions. C'est ce que nous avons connu au quartier Maman Mobutu.
Voilà, Ignace Ndala de Kolozi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour auditeur. Je reviens sur l'aspect de l'emploi ou de l'usage de sacs de sable. Hein.
Oui.
J'aimerais juste savoir, est-ce que l'unité ne peut pas nous proposer, parce qu'il y a des moments où on est en urgence, mais c'est le moyen le plus habituel et le plus simple à utiliser. Comment on peut, dans le premier moment, avec les sacs, se servir d'une manière ou d'une autre pour contenir l'érosion? Peut-être qu'il y a une technique même en utilisant les sacs.
Ah oui, c'est vrai, les sacs sont assez efficaces pour lutter contre les érosions. Généralement, la technique qu'il faut utiliser, c'est la technique en escalier. C'est-à-dire qu'il faut placer les sacs en rangée, en escalier, de sorte que à chaque étape, il y a un freinage de l'eau jusqu'en aval. C'est la technique qu'il faut... En fait, pour avoir une certaine idée, voyez un stade. Sur un stade, les sièges sont placés en escalier de façon à ce qu'on puisse voir vers le bas. Et c'est cette technique-là qu'il faut utiliser lorsqu'on emploie les sacs dans la lutte anti-érosive.
Voilà, nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre les inondations avec professeur Emmanuel Bieyi, directeur général de la régie d'assainissement et des travaux publics pour la ville de Kinshasa. Il est également docteur en sciences environnementales. Alors, professeur Bieyi, il y a certaines personnes qui ont construit, qui sont victimes des inondations chaque fois. Par exemple, ceux qui ont des maisons le long de la rivière Kalamu, chaque fois qu'il y a une grande pluie, c'est fini, les maisons ont les pieds dans l'eau. Alors, pour ces gens, quelle disposition prendre? À combien de mètres faut-il construire à côté d'une rivière?
Oui, c'est vrai. Ce problème est très vécu à Kinshasa parce que je commençais par dire qu'au départ, le constructeur de la ville n'a pas prévu de construction de maisons le long des rivières. C'est comme ça qu'il était prévu une distance de sécurité d'environ 30 mètres. Mais ça peut s'étendre. C'est pas fixe. c'est le lit. Donc, on considère le niveau, le lit de la rivière, c'est-à-dire lorsqu'il y a de fortes eaux, jusqu'à quel niveau les eaux peuvent occuper le long de la rivière. Et c'est cette superficie qui ne peut pas être habitée. Donc, vous voyez que ça peut aller de 10 à 100 mètres. Ça dépend du réseau. Et donc, pour les gens qui ont construit le long des rivières au niveau de la ville de Kinshasa, oui, je crois qu'il y a un arrêté du gouverneur qui parle de la destruction de ces maisons, de ces constructions. Donc, en réalité, ce sont des maisons que la ville devra évacuer parce que ça pose problème. Juste un exemple, voyez la rivière Gombe vers le fleuve Congo. Les gens ont construit à partir de Sosimat jusqu'au bord de la rivière. Ce qui fait que cette rivière, pendant les fortes pluies, ça devient un entonnoir et donc les eaux arrivent au niveau de Sosimat et ne peuvent pas s'écouler jusqu'au fleuve et ben, ça se rabat sur Lingwala et ça crée des inondations. Et donc ce sont des maisons, qu'on le veuille ou pas, avec le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, on devra les détruire.
Voilà, nous avons Gaston Kimbenza en ligne de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Daniel.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je vais demander à votre invité, les cas que j'ai vu dans les quartiers. En fait, je constate ces derniers temps que nos routes, les caniveaux qui sont à côté de nos routes, ne sont pas dimensionnés par rapport au débit des eaux de pluie. Alors j'assiste à quel phénomène? Quand il pleut, vous verrez ces caniveaux sont remplis et débordés par les eaux. Et ces eaux-là progressent vers les maisons des avenues environnantes plutôt ou dans les quartiers. Alors, les habitants de ces maisons-là ont dimensionné leurs caniveaux par rapport au débit des eaux de pluie, en comparaison sur les petits caniveaux. Alors, comment ils peuvent réagir quand les eaux-là qui viennent de la grande route, parce que les caniveaux de grande route, qui n'ont pas d'avaloir tous les 10-15 mètres, sont débordés et ces eaux se déversent jusque dans les avenues. Comment peuvent réagir ces habitants? Est-ce qu'il faut augmenter les caniveaux de la maison, qui aient les mêmes dimensions que ceux-là de la grande route? Est-ce qu'il faut carrément mettre des sacs, comme les autres le disent? Qu'est-ce que l'invité qui s'y connaît peut proposer à nos habitants?
Professeur Manuel.
Oui, je pense avoir compris sa question. Il s'agit ici des caniveaux ou des collecteurs qui sont construits au niveau des grandes artères, c'est ça?
Il a parlé d'un quartier, par exemple, qui est construit, qui a un niveau bas par rapport à la grande route. Et quand il pleut, les eaux quittent la grande route pour se déverser dans ce quartier. Alors, comment les habitants de ce coin peuvent gérer ces eaux qui viennent provoquer l'inondation?
Bon, je crois que si les quartiers situés à un niveau très bas ont fait l'objet d'un aménagement, en principe, il y a des canalisations qui doivent être prévues le long de grandes artères qui longent ces quartiers-là. Mais bon, dans le cas ici précis, la meilleure des façons, c'est de faire des protections, c'est de mettre des digues. Avec le système de digues, ça peut constituer une barrière de sorte que les eaux n'accèdent pas dans les maisons. C'est une mesure assez préventive parce qu'en définitive, il faut que la solution soit trouvée au niveau de l'aménagement du quartier.
Oui, mais il peut y avoir des rigoles, des tranchées, mais qui ne supportent pas le débit des eaux de pluie.
Oui, c'est vrai, ça doit être calculé. Logiquement, on ne peut construire pas les rigoles de n'importe quelle façon. On tient compte de la pluviométrie, on tient compte de la quantité d'eau qui passe sur cette superficie avant de concevoir le système de drainage, parce que ça doit être calculé au fait. Il faut que toutes les eaux de pluie passent par là et qu'en un temps calculé, que toutes ces eaux soient évacuées. C'est là le principe.
Oui. Alors, prenons par exemple le cas de quelqu'un chez lui. À chaque fois qu'il pleut, les eaux de pluie tombent sur la toiture et puis ça ruisselle. Alors, ça peut aussi provoquer l'inondation dans la parcelle.
Oui,
Comment gérer ces eaux?
On demande actuellement que toutes les eaux domiciliaires soient gérées, que les eaux de pluie soient collectées même au niveau des habitations. Il faudrait donc que chaque maison puisse disposer d'un système de collecte des eaux de pluie qui soit seront évacuées vers les canalisations situées à l'extérieur, soit alors gérées au niveau de la parcelle si on dispose des tanks ou des citernes. Allô?
Oui.
Oui.
La course relais de l'information sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieudonné Kabeyanganoula qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Chambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Moulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches, à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Voilà, professeur Manuel Bey, vous parlez de la gestion des eaux dans chaque famille, dans chaque parcelle. Alors, comment, quelles sont les techniques à appliquer pour bien gérer ces eaux afin d'éviter les inondations?
Les techniques à appliquer, c'est que, vous voyez, ça dépend de la structure de la toiture.
Oui.
Il faut arriver à collecter toutes les eaux de pluie qui tombent sur la toiture de façon à les canaliser soit vers... la canalisation extérieure devant la maison, c'est-à-dire le caniveau, soit alors arriver à recueillir ces eaux-là dans une citerne ou un tank ou même un puits. Et de cette façon, on peut éviter de grandes quantités d'eau qui échappent de la parcelle et peuvent provoquer des inondations soit dans la parcelle, soit en dehors de la parcelle.
Alors là, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matériel? Certains utilisent des PVC qu'ils placent pour permettre
oui,
aux eaux...
Oui, c'est mieux d'ailleurs d'utiliser les PVC parce que si on utilise le système de conduite en métal, ça peut créer ça peut éroder le métal et provoquer de la pollution de l'eau, la contamination de l'eau.
Oui.
Le PVC est approprié.
Nous avons en ligne Jean Dambosch de Colisi. Bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité.
Oui, quelle est votre question?
J'ai un cas que moi-même je suis en train de voir ici, par exemple ici chez nous à Colisi.
Oui.
C'est-à-dire une route qui quitte la cité Manika vers la cité Dumour. Suite à de l'érosion, on a vu un cas, c'est-à-dire... le caniveau qui doit conduire l'eau jusqu'à la rivière, donc est resté au-dessus de la route, c'est-à-dire l'eau ne s'est pas passée par des caniveaux. Alors là où l'eau doit aller se verser, ce sont les parcelles environnantes plutôt qui sont en train de payer les pots cassés. Ils ont tenté de mettre des sacs, mais l'eau n'a pas été maîtrisée. Alors ce genre d'érosion, comment est-ce que la population peut s'en écarter?
Ouais, Jean, vous dites que les eaux quittent la grande route pour aller créer des inondations dans les maisons.
Là où l'eau doit aller se verser, c'est-à-dire il y a une rivière qui passe, c'est là où l'eau doit aller se verser.
Oui.
Mais suite au mauvais état des routes, le caniveau est resté au-dessus de la route, c'est-à-dire là où l'eau doit aller arriver, ce sont les parcelles environnantes qui sont en train de payer les pots cassés. Ils nous ont tenté de mettre des sacs par-ci par-là, mais l'eau n'a pas été bien maîtrisée. Alors, ce sont des maisons qui tombent par-ci par-là. Alors, ce genre des érosions, s'il faut les combattre, la population doit faire quoi?
Professeur Emmanuel Bié.
Oui, je crois que la première solution, c'est la réhabilitation de la chaussée même, parce que la population peut bien fournir des efforts, mais tant que la structure reste telle que monsieur le présente là-bas, avec un collecteur qui se trouve à un niveau supérieur par rapport à la chaussée, la solution ne viendra pas par la population. Les mesures de protection seront en fait nulles. Il faut donc qu'on réhabilite cette chaussée-là. Et là, c'est la responsabilité de l'autorité intervient.
Oui, mais en attendant la réhabilitation de la route...
Oui, en attendant la réhabilitation de la route, il faut voir avec le système de sacs, justement, comment la population peut faire une certaine barrière le long de la chaussée, de façon à diriger les eaux vers le niveau le plus bas, sans passer par les maisons.
Et si, par exemple, par rapport à la puissance des eaux, il faut prévoir combien de sacs, quel type de barrière pour dévier ces eaux de leur course?
Ben là, il y a des calculs qu'il faut faire et c'est pas à la radio comme ça qu'on peut dire, parce que on doit savoir quelles sont les quantités d'eau au fait qui s'écoulent et combien de sacs sur quelle longueur il faut placer ces sacs là et s'il faut remplir les sacs ou pas.
Mmh. Voilà, il y a aussi, donc, en revenant à cette question par rapport aux gens qui construisent les longs de, des rivières, les longs de, des lacs, hein, et c'est, ils ont une belle vue, hein, c'est un très beau panorama, mais quelles sont les dispositions à prendre, parce qu'il y a, parfois, on assiste à la montée des eaux, quelles sont les précautions à prendre par rapport à ça?
Ben, c'est-à-dire qu'avant d'aller occuper ou de construire le long de la rivière ou le long de, d'un lac, il faut s'adresser au service approprié, au service d'urbanisme, parce que c'est à ce niveau-là que eux peuvent donner l'information pour dire, voilà, là où vous voulez construire, lorsqu'il y a des crues d'eau, le niveau d'eau augmente jusqu'à tel niveau, donc vous avez intérêt à construire tel type de maison ou à construire à partir de cette distance-là. Donc, il ne faut pas simplement faire de l'anarchie parce qu'on détient un certain pouvoir et qu'on peut occuper une superficie donnée simplement parce que c'est libre. Pas du tout, je crois que le respect de la loi s'impose.
Voilà, et professeur Emmanuel Vieille, il y a des gens, par exemple, qui construisent parfois sur les caniveaux. Est-ce que ça peut être à l'origine des inondations également dans les quartiers?
Ah, bien sûr. Vous savez, là, c'est vraiment de l'anarchie pure et simple. Et ce genre de maisons doivent, quelle que soit la valeur de la maison, être détruites.
Voilà, mais avant que ces gens ne construisent, généralement, les services de l'État devaient indiquer, voilà, ne construisez pas à tel endroit parce qu'il y a, des caniveaux qui passent par ici.
Oui, c'est vrai, il y a eu une certaine faiblesse des services de l'État, mais bon, je crois que parfois, les services de l'État se sont retrouvés dans une situation telle qu'ils ne pouvaient pas se faire quelque chose, ils ne pouvaient pas s'imposer sur la personne à cause de l'une ou l'autre raison. Mais bon, je crois qu'actuellement, l'autorité de l'État est rétablie et que bon, des cas comme ça vont être résolus dans les jours qui suivent.
Voilà, on signale que même du côté de Stade des Martyrs, sur l'avenue Songololo, il y a des gens qui ont construit sur les collecteurs et ça pose problème.
C'est vrai, c'est pour ça que je dis que la loi va s'appliquer.
Voilà, professeur Emmanuel Vieilly, directeur général de la Régie d'assainissement et des travaux publics, docteur en sciences environnementales, je vous remercie.
Merci.